nucléaire. Nous venons vérifier les compétences de vos employés.
Il va y avoir une erreur. Nous fabriquons des biscuits ici.
Vous avez un Homer Simpson dans vos effectifs.
Désolé, il est en voyage.
Oui, il est à Genève. Il préside une conférence sur la fission nucléaire.
Homer, c'est la réplique exacte de votre poste de travail. Nous allons simuler une surchauffe dans le secteur 8 du cœur du réacteur.
Ça va pas la tête de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
Détendez-vous, ce n'est qu'une simulation, il ne se produira rien.
J'appuie à l'aveuglette jusqu'à ce qu'il me laisse partir. Moi, détruire espèce humaine.
Cette centrale viole toutes les lois sur le travail.
Vive l'anarchie.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu. Si vous nous rejoignez, bienvenue pour un nouveau Canu Info. Nous sommes le jeudi 10 novembre et avec Laurent, ce soir, nous allons vous parler de plein de petites choses. Mais je dois dire que ce soir, je suis bien assise dans des fauteuils tout moelleux, puisqu'après avoir accédé à la propriété, Radio Canu s'est offert de nouvelles chaises. Hein. Alors c'est de la récup, hein, il paraît, mais c'est chouette. Hein. Disons que ça va bientôt être magnifique, Laurent, chez nous, je te dis pas comment. Bientôt, tu vois, on va même peut-être devenir professionnel, va savoir. Alors évidemment, vous avez donc tous entendu, Monsieur Trump a gagné. Victory, hein. Eh oui, la victoire. En juillet dernier, Michael Moore, sur The Huffington Post, j'ai toujours du mal, excusez-moi, dans un papier appelé 5 raisons pour lesquelles Trump va gagner, c'était au mois de juillet, il avait écrit « Ce clown à temps partiel et sociopathe à temps plein va devenir notre prochain président ». Bingo. C'est donc Michael qui a remporté le gros lot pour avoir bien trouvé le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Alors depuis, il y a eu quelques réactions, puisqu'à Boston par exemple, à New York, à Washington, à Chicago, même au Texas, à Austin, en Californie, il y a eu des manifestations. Il y a même des jeunes qui ont cramé un peu des effigies de Monsieur Trump. Ça démarre bien déjà pour lui. Alors, il faut savoir qu'après l'annonce de sa victoire, le nombre de recherches effectuées par les Américains des États-Unis d'Amérique pour des emplois au Canada a été multiplié par 10. Les consultations du site internet du ministère canadien de l'immigration a augmenté. Les recherches sous les navigateurs, dont le plus connu, How to Move to Canada, ont explosé. C'est assez impressionnant. Et le compte officiel du Canada sur Twitter a un petit peu profité de la situation, puisque hier, un tweet disait « Au Canada, les immigrés sont encouragés à apporter leurs traditions avec eux et à les partager avec les citoyens. » Une petite pink, donc. Bon, il faut savoir que aux États-Unis, on va pas trop au Canada. Entre 2013 et 2014, il y a 8500 Américains qui sont passés de l'autre côté de la frontière. Fut une époque bien lointaine de guerre du Vietnam où effectivement certains se rendaient de l'autre côté pour échapper à cette guerre. Ça remonte, hein, maintenant. Voilà. Mais ça rappelle un peu ça, hein, cette espèce de frénésie d'un seul coup. Alors, il paraît que Monsieur Trump va relancer l'activité. Il espère créer sur 10 ans 25 millions d'emplois. Par contre, il nous dit pas quel emploi. Hein, on n'est pas sûr que ça soit 25 millions d'emplois de cadres, par exemple. Ça, on n'est pas tout à fait sûr. Alors, il paraît qu'il va réduire les dépenses publiques, mais que les programmes sociaux et militaires seront épargnés. Sociaux, ils ne sont pas très importants de ce niveau-là. Militaires, par contre, ça, évidemment, ça intéresse des gens. Et puis, vous savez, M. Trump prône le protectionnisme. Alors, on va voir comment il va mettre tout ça en place. Et moi, je me suis demandé, mais c'est qui les grands gagnants là-dedans? Alors évidemment, on parle des profiteurs, hein, on parle des multinationales par exemple. Alors les grands gagnants, c'est par exemple le secteur pharmaceutique. Et oui, parce que Madame Hillary Clinton avait dans son programme l'idée de limiter le prix des médicaments. Et ben comme elle n'est pas élue, elle n'est pas devenue présidente, et ben du coup dans le secteur, on est content. Hein. Par exemple, Bayer à Francfort était en hausse, à Paris c'est l'action de Sanofi qui a bondi, mais on avait aussi Pfizer, Merck, tout le monde était très très content sur les marchés. Et puis je vous le disais, il y a la défense, et l'industrie de la défense, c'est un gros marché. marché aux États-Unis d'Amérique. Les budgets vont augmenter, hein, puisqu'il a annoncé déjà tout un tas de répartitions sur le territoire. Il veut faire la guerre à Daesh, on ne sait pas encore comment, mais il veut la faire. Là, par exemple, c'est l'action de Thalès qui a augmenté. Et puis, c'est le secteur aussi de l'industrie, de la construction, le secteur des métaux, puisque M. Trump, lors de sa première intervention publique depuis sa victoire, a expliqué « Nous allons reconstruire nos autoroutes, nos ponts, nos tunnels, nos aéroports, nos écoles et nos hôpitaux. » Bon, on a un peu l'impression que le pays entier est tout pourri et à terre. Alors certes, hein, dans le secteur public, dans les écoles, par exemple.
C'est pas terrible.
C'est pas terrible. Bon, enfin, il y a des routes, hein, quand même. Il faut quand même se le rappeler. Alors, ça a été une telle sortie que les cours du cuivre ont atteint le niveau le plus haut en près d'un an et demi hier. ArcelorMittal était en hausse à la Bourse de Paris. Caterpillar, hein, vous savez, c'est fabricant de matériel de travaux publics, a été un des grands gagnants à Wall Street. Et puis Lafarge, le cimentier, oh, s'éclate aussi sur Euronext. Donc il y a des grands heureux quand même avec cette élection de Monsieur Trump, même s'il y a des gens dans la rue aujourd'hui. Il y a quand même, il faut le dire, des gens qui se satisfont, qui vont savoir en tout cas trouver comment faire de l'argent avec l'arrivée de Monsieur Trump. Alors moi j'ai une petite question, vous savez, à l'arrière du cerveau, celle qui titille un peu, c'est que une élection c'est 4 ans, hein, enfin la présidence c'est 4 ans, excusez-moi. Monsieur Trump, comment va-t-il organiser le pays, hein, comment va-t-il saboter le pays à son image pour que ben à la fin il puisse lui-même récupérer des billes quelque part, puisque là il va faire une petite pause, mais l'homme d'affaires qui est en lui va certainement se réveiller après tout ça. Donc moi voilà, c'est une petite question à l'arrière. Comment va-t-il mener le pays pour que ça lui serve demain ? Alors ce soir, au-delà de M. Trump, nous allons vous parler d'Israël-Palestine, on va vous parler des barbares, on reviendra aux États-Unis d'Amérique, on vous parlera de l'État français qui est devant la justice, je vous parlerai de l'Inde et du Pakistan qui font la guerre, c'est comme ça depuis longtemps. Nous irons en Moldavie parler des élections et puis on parlera du groupe Bolloré, on ira au Cameroun par exemple. On parlera un petit peu de la liberté de la presse, de BD, et puis on verra si on a le temps de vous parler d'autres choses derrière tout ça.
Alors justement, Trump, on peut se poser des questions sur la victoire de Trump et l'impact en Palestine et en Israël. Ben, faut savoir qu'il n'y a aucun gagnant, aucun perdant, puisque les deux candidats ont toujours été pro-Israël. Alors même si Trump a fait un peu la girouette et il n'a pas de position fixe, parce qu'il y connaît pas grand-chose, mais il a donné son soutien plein et total à Israël. Il a même rappelé dans un discours qu'il voulait que Jérusalem devienne la pleine capitale de l'État israélien. Alors, on rappelle que Israël est occupé en partie que Jérusalem est occupé en partie par Israël et que les Palestiniens voudraient aussi que ça soit leur capitale. Donc avec Trump, c'est pas parti comme ça. Mais bon, Clinton était elle aussi pro-israélienne. Donc il n'y a vraiment aucun gagnant sur la situation. La situation, elle est comment aujourd'hui en Israël-Palestine? C'est la même qu'il y a un mois, la même qu'il y a deux mois, la même qu'il y a six mois. C'est-à-dire que les Palestiniens sont quand même ultra désespérés. Donc lundi, un nouveau Palestinien a pété un câble et a attaqué des soldats qui étaient près de Ramallah. Donc Ramallah, c'est en Cisjordanie, c'est-à-dire en Palestine. Donc ces soldats, ce sont des colons, des occupants illégaux, hein, vis-à-vis de la loi internationale. C'est comme quand on avait l'armée allemande en France durant la Deuxième Guerre mondiale. Ben, qu'est-ce qu'il a fait ce gars? Il a sauté sur le soldat, comme les résistants français de l'époque, et il l'a agressé. Bon, il a été assassiné tout de suite, hein, par les militaires de l'armée occupante. Alors c'est pas le premier, hein, ça, il y a eu ces derniers mois, alors ça remonte à presque un an maintenant, hein, ça a commencé en octobre 2015, donc un an, ces actions désespérées, ces nouvelles formes d'intifada, hein, parce que voilà, la manière de rebeller des Palestiniens a été quand même saccagée, hein, par le monde sécuritaire israélien, par l'autorité palestinienne aussi, et ces actions un peu qui ont l'air désespérées, c'est les dernières armes qui existent pour le peuple palestinien d'essayer de faire partir l'occupant israélien. Ses actions suicidaires, hein, on se rappelle dans les différents moments de l'histoire du monde où il y a une armée d'occupation, il y a toujours eu ces actes de sabotage, de résistance, de suicide, même si des fois c'est pas des suicides, parce que là c'est pas un suicide, il est allé les agresser, bon, enfin, voilà, mais en sachant qu'il avait peu de chances de s'en sortir. Voilà, les actions héroïques de la résistance française, elles sont bien connues, et il faisait à peu près la même chose, c'était souvent d'une plus grosse ampleur, parce qu'il y avait plus de moyens, et qu'aujourd'hui, dans cette résistance palestinienne, il ne reste très peu de moyens, si ce n'est ces actes assez isolés de un ou deux individus. Vous noterez quand même que la majorité de ces actes ont lieu soit dans le Jérusalem occupé, soit dans la Cisjordanie occupée, donc vraiment, ils attaquent une armée, des gens qui ne sont pas à leur place, qui ne sont pas au bon endroit, et qui viennent les occuper, qui viennent les arrêter, qui viennent faire toutes les exactions qu'on connaît et qu'on redonne ici régulièrement. Donc voilà, ça fait un an que ça dure, 237 Palestiniens ont perdu la vie durant ces attaques, 36 Israéliens aussi, 2 Américains, 1 Érythréen, 1 Jordanien et 1 Soudanais. Voilà, ce bilan de cette nouvelle forme de résistance en Palestine. Alors, toujours en lien avec la Palestine, un mot de la Commission européenne au sujet de la campagne BDS, la campagne boycott des investissements sanctions, dont le but est de faire boycotter les entreprises qui collaborent avec Israël et qui sont surtout celles qui sont implantées dans les colonies illégales. On a souvent parlé de Teva, qu'il faut vraiment essayer de boycotter. C'est très facile dans les pharmacies de vous demander un médicament d'une autre marque et ils vous la trouvent sans problème. Et là, il y a quand même pas mal d'attaques, notamment en France, où l'idée de boycott est pas très implantée. On sait que dans les pays anglo-saxons, c'est une vraie tradition, le boycott. En France, non, ça a jamais bien marché, même à l'époque des Afrikaners, alors en Afrique, de l'apartheid. Les pays anglo-saxons, il y avait des grosses campagnes de boycott. En France, c'était plus difficile. Donc face à cette tradition, il y a des attaques, puisque en France, il y a même des lois qui interdisent l'entrave au commerce. Et le boycott, c'est une entrave au commerce. Et une question a été posée à Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission européenne. Ça a été une question qui a été posée par une députée qui s'appelle Martine Anderson, qui demandait en gros un soutien des droits des militants BDS à exercer leur expression démocratique. Il y a une réponse sans ambiguïté de la part de Madame Mogherini, je vais vous la lire. Elle dit, alors du coup elle se remet dans le contexte européen, etc., elle remet les grands mots, mais vous allez voir, elle condamne les actions contre BDS. Elle soutient pas BDS d'ailleurs, elle redonne la position officielle de l'Europe sur le boycott, mais elle donne une position claire, et c'est ce qui va redonner un peu de l'espoir aux militants qui se font arrêter, notamment en France, où il y a pas mal d'actions contre les militants. Donc elle dit, l'Union européenne condamne fermement les menaces et la violence contre les défenseurs des droits de l'homme en toutes circonstances. Dans son dialogue avec les autorités israéliennes, l'Union européenne soulève régulièrement des questions relatives à la protection des droits de l'homme et des défenseurs des droits de l'homme, et appelle aussi bien Israël que les Palestiniens à éviter la provocation et à combattre résolument tout discours d'incitation et de haine. Bon, voilà une petite introduction. Et ensuite, l'Union européenne se positionne fermement pour la protection de la liberté d'expression et de la liberté d'association en cohérence avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est applicable au territoire des États membres de l'Union européenne, y compris en ce qui concerne les actions BDS menées sur ce territoire. La liberté d'expression, telle qu'elle est soulignée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, s'applique aussi aux informations et aux idées qui offensent, choquent ou dérangent l'État ou n'importe quel secteur de la population. Donc voilà, elle soutient ouvertement. Et elle termine par la position officielle de l'Europe, qu'elle rappelle, l'Union européenne rejette les tentatives de la campagne BDS d'isoler Israël et est opposée à tout boycott d'Israël. Mais elle autorise le droit de ne pas être de son avis. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour les militants qui vont pouvoir, suite à ça notamment, poursuivre les États et peut-être la France contre les arrestations et les condamnations des militants qui défendent la cause palestinienne.
Alors oui, je voudrais quand même revenir sur les référendums locaux qui ont été votés parallèlement à cette élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique, mais je vais surtout revenir sur ces référendums qui touchaient la peine de mort, la peine capitale aux États-Unis. Ici, nous, vous savez, on appelle ça les barbares, les États qui assassinent, et malheureusement, c'est quand même des mauvaises nouvelles, hein, puisque 3 États votaient sur la peine de mort. En Oklahoma, 60% avec 67% des voix, une proposition a été acceptée, puisque les électeurs ont voté pour renforcer la peine de mort, l'inscrivant dans la Constitution, carrément, de leur État, hein, bien évidemment, cette Constitution. Et puis, la question qui leur était posée aussi, c'était d'autoriser toute méthode d'exécution non interdite par la Constitution des États-Unis. Donc voilà, c'est pas une bonne nouvelle de savoir que c'est renforcé dans cet État d'Oklahoma. Au niveau du Nebraska, eh ben, c'est pas terrible non plus, puisque les électeurs ont rétabli la peine de mort plus d'un an après que les législateurs l'eurent abolie. Donc c'est pas là aussi une bonne nouvelle. Et puis en Californie, alors en Californie, on a beaucoup parlé surtout
du cannabis,
hein, mais il faut pas oublier que la Californie, c'est pas les plages comme dans les séries de Hollywood, avec des maillots de bain et puis des voitures ouvertes. C'est un pays, c'est un État, excusez-moi, très diversifié, qui à la fois légalise le cannabis au maximum, et puis en même temps est pour la peine de mort, hein, malheureusement, puisqu'il y avait une question, fallait-il abolir la peine de mort? Et ça a été rejeté à 55%. L'autre question était de savoir s'il fallait accélérer la procédure. Et oui, il faut accélérer donc les procédures d'exécution à 51%. Alors heureusement, aucune exécution n'a eu lieu depuis 2006. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle de l'affaire. Mais il y a un nombre record de condamnés dans les couloirs de la mort. Il y a 750 personnes en Californie qui sont dans les couloirs de la mort. Donc voilà, il y a eu l'élection de Trump, mais il y a aussi ces référendums locaux. Il n'y a pas que le cannabis, il n'y a pas que le truc rigolo. Il y a aussi 3 États qui ont renforcé la peine de mort.
Voilà, la Turquie sera le prochain, mais c'est pas un État américain, j'allais dire. Mais c'est pas mieux. On poursuit avec, justement, on va parler de l'État, mais de l'État français, qui a été... qui était devant la justice, parce que la justice française juge aussi l'État, des fois, directement. Alors, la première action de l'État, c'est sur les contrôles aux faciès, donc c'est une bonne nouvelle, la Cour de cassation, donc c'est la dernière étape, hein, le dernier recours qu'on a devant la justice. Donc, la Cour de cassation a définitivement condamné l'État français, donc c'était hier, pour les contrôles d'identité aux faciès, en rejetant le pourvoi formé contre sa condamnation pour faute lourde en 2015 par la Cour d'appel de Paris. Donc la juridiction écrit, je vais citer le rapport, elle dit « Un contrôle d'identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée sans aucune justification objective préalable est discriminatoire. Il s'agit d'une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. » Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, je rappelle les faits, hein, c'était une affaire qui a débuté il y a un petit moment, presque 3 ans. 13 hommes d'origine africaine et nord-africaine avaient déposé plainte en disant qu'ils étaient, qu'ils subissaient des contrôles abusifs, parfois qui allaient jusqu'à des insultes, des palpations, du tutoiement, juste d'après eux, en raison de leur couleur de peau ou de leur origine. Ils avaient perdu en première instance, il y a eu plusieurs appels, et puis quand ils ont gagné sur les deuxièmes, quand ils étaient soutenus par le défenseur des droits, Jacques Toubon, hein, qu'on a connu très à droite, mais qui, depuis qu'il est défenseur des droits, des droits a des idées un peu de gauche, c'est bizarre, la Cour d'appel de Paris avait condamné donc l'État à verser 1500 euros, alors pas à tous les plaignants, enfin bon, voilà, l'affaire, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il n'y a pas d'intérêt, mais une partie des plaignants avait gagné, hein, parce qu'en fait, souvent, c'est difficile d'amener des preuves. C'est ça qui manque, hein, sur l'aspect discriminatoire. Et donc, l'État avait fait appel donc à cette Cour de cassation. Donc là, ils ont été condamnés. Alors, même si la condamnation est symbolique, ça reste quelque chose de positif, ça va dans le bon sens. Il y a eu des études depuis qui ont montré effectivement qu'avec des taux importants, que quand on est noir, quand on est d'origine nord-africaine aussi, on a plus de chances d'être contrôlé par la police, voire beaucoup plus, hein, les chiffres sont énormes. Bon, après, si vous êtes jeune, vous avez aussi de plus de chances. Du coup, si vous êtes jeune maghrébin, vous avez alors un taux énorme de risque de contrôle, et puis de contrôle pas sympa, hein, par les forces de répression. Donc voilà, c'est une condamnation qui va dans le bon sens. Alors, une autre condamnation qui est relativement symbolique, mais qui a un sens quand même important. C'est le Conseil d'État qui a cassé l'arrêt de la Cour administrative d'appel qui avait estimé que l'État devait réparer intégralement le préjudice subi dans l'affaire du Mediator. Donc le Mediator, on vous rappelle, c'est ce médicament qui était prescrit par les médecins comme coupe-faim ou des choses comme... Enfin, non en dehors de sa zone médicale traditionnelle et qui a eu des conséquences très négatives. Hein. Il y a eu des morts... Il y a des gens qui ont des problèmes de santé encore aujourd'hui à cause du Mediator, fabriqué par le laboratoire Servi. Et la cour d'appel, la cour administrative d'appel avait estimé que c'était à l'État d'indemniser, c'était l'État qui était responsable. Et là, donc ça passait devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a cassé l'arrêt de la cour administrative en disant non, attention, faut faire attention. Il y a deux périodes. Avant 99, l'État est pas du tout responsable. L'État n'était pas au courant des problèmes de santé liés au Mediator. Après 99, avant que l'État mette plus de 10 ans à interdire, peut-être pas plus de 10 ans, mais un certain nombre d'années à interdire le Mediator, là, l'État est responsable. L'État est au courant, les services de santé mettent du temps, beaucoup trop de temps. Alors, on sait pourquoi depuis. On sait que Servier, il a eu moult légions d'honneur à tous les niveaux, donc il était très proche des dirigeants politiques, de droite comme de gauche, et que c'est ce soutien politique, cette trahison des hommes politiques envers le peuple, qui lui prenait le Mediator et donc avait des conséquences négatives, a permis aux médicaments d'être toujours prescrits. Donc voilà, le Conseil redit les faits. Donc avant 99, Servier va payer. Bon, même pour les autres, ils payent aussi, puisqu'il y a, il y a d'autres. C'est un peu compliqué les services d'indemnisation, mais il y a des recours et Servier négocie d'ailleurs en ce moment avec les anciens malades ou les familles d'anciens malades pour essayer de payer le moins possible, mais payer quand même. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement l'État n'est pas responsable de tout et ce qui est important, c'est de rappeler que Servier est responsable au départ. Donc c'est ça qui compte. Malheureusement dans ce genre de truc et dans alors c'est sur l'affaire du Mediator en général, alors je sais pas si c'est les principaux responsables, mais c'est quand même ceux qui ont prescrit, ils sont jamais poursuivis. C'est très très rare qu'un médecin soit poursuivi pour des prescriptions. Pourtant les médecins ont l'obligation de connaître les médicaments. Les médecins savaient les problèmes du Mediator, ils savaient qu'ils le prescrivaient hors du domaine prévu par l'autorisation de mise sur le marché du médicament, et ils l'ont fait. Et malheureusement, aucun de ces médecins n'est poursuivi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les médecins continuent à faire des bêtises de temps en temps. Après, est-ce que c'est volontaire ou pas, ou est-ce que c'est une incompétence ? La question se pose. Mais voilà, malheureusement, on signalera que l'État est reconnu coupable pour une partie, Servier aussi, et les prescripteurs que sont les médecins, pas du tout.
Alors, il y a 65 ans, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies portait la question de l'Inde et du Pakistan. C'était le 10 novembre 1951 et le Conseil de sécurité approuvait le principe fondamental d'un plan de démilitarisation, prenait acte que les parties étaient décidées à trouver une solution au problème, priait le représentant des Nations Unies à poursuivre ses efforts, invitait les parties à coopérer avec le représentant des Nations Unies et chargeait le représentant des Nations Unies à faire un rapport au Conseil de sécurité 6 semaines au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente résolution. C'était une résolution adoptée par 9 voix contre 0, avec 2 abstentions, l'Inde et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, souvenez-vous, l'URSS. Et bien depuis, la situation n'a pas vraiment changé. 65 ans après, l'Inde et le Pakistan se font toujours la guerre. Alors il faut se souvenir qu'en août 47, lorsque l'Inde et le Pakistan accèdent à l'indépendance, les États princiers de la région sous protectorat britannique ont le choix de rallier l'Inde ou le Pakistan. Et c'est en octobre 47 que le royaume du Cachemire, qui compte une population à majorité musulmane, mais qui est gouverné par un prince hindou, demande à être attaché à la fédération indienne. Et depuis, rien ne va plus, puisque 3 guerres pour affirmer la domination sur ce territoire pour l'Inde et le Pakistan. Une ligne de cessez-le-feu qui date de la première guerre indo-pakistanaise de 1948. Et on assiste depuis 2 mois à un regain de tension dans la région, c'est peu de le dire. Alors depuis le mois de juillet, il y a déjà eu plus d'une centaine de morts de part et d'autre. Alors, il semblerait que tout ait commencé, en tout cas, par la mort d'un leader rebelle au sein du Cachemire, tué par les forces de sécurité indiennes. L'annonce de sa mort a provoqué des manifestations. Il y a eu un couvre-feu et les manifestants ont décidé quand même de se rendre à ses funérailles. Et là-dessus, tout a commencé à repartir en vrille entre les deux pays. Alors, ça ne s'était jamais vraiment arrêté, hein, il faut bien vous le dire. Mais c'est vrai que avec cet automne, on peut dire que tout s'est détérioré. Le 18 septembre dernier, il y a eu une attaque contre une base militaire indienne qui a causé la mort de 19 militaires indiens, qui a fait une trentaine de blessés. Là-dessus, l'Inde accuse le Pakistan et l'Inde envoie un raid pour détruire des installations terroristes de l'autre côté de la frontière. Et la ligne de démarcation au Cachemire est ces derniers temps vraiment le théâtre de tirs frontaliers. Parfois, il y a eu des morts, comme je vous le disais, mais il y a surtout beaucoup de civils qui sont touchés actuellement. L'Inde avait commencé la semaine dernière à évacuer les populations qui se trouvent le long de la frontière commune. Le gouvernement a aménagé des espaces publics pour créer des camps temporaires. Hein. Il faut quand même se rendre compte de la chose. Et puis l'Inde a annoncé le jeudi 27 octobre l'expulsion d'un employé de l'ambassade du Pakistan à New Delhi pour espionnage. Monsieur Akhtar est soupçonné d'avoir acheté des documents à des Indiens contre rémunération pour le compte de l'agence de renseignement militaire pakistanaise. Monsieur Akhtar a déclaré de son côté à l'Associated Press avoir été torturé par les policiers indiens et donc avoir été obligé, contraint d'avouer face à la caméra qu'il était à la solde des renseignements pakistanais. Quelques heures plus tard, le ministère des Affaires étrangères du Pakistan annonce avoir convoqué l'ambassadeur d'Inde afin de lui expliquer que le Pakistan allait à son tour expulser 5 diplomates indiens pour fait d'espionnage. Les choses se sont emmenées au niveau politique, mais aussi au niveau culturel. Alors, le Pakistan a interdit de son côté la diffusion des films et des émissions indiennes sur les chaînes de télévision et de radio. Et puis, du côté indien, il s'est passé un drôle de truc à Bollywood. Alors, Bollywood, vous savez, c'est le secteur du cinéma en Inde. Et les nationalistes hindous ont décidé d'interdire tous les films avec les acteurs pakistanais ou avec des musiciens pakistanais. Les producteurs de cinéma en Inde et les producteurs de cinéma et de télévision ont réagi et ont décidé de ne plus travailler avec ces acteurs et ces musiciens pakistanais. Alors, dans la balance, il y avait un accord, il y a un compromis à trouver avec un film qui allait être le gros film de cet automne en Inde, un film qui s'appelle « Ce cœur est difficile » de Karan Johar. Il devait sortir le 27 octobre dernier, mais dès le 8 octobre, le parti nationaliste de la région du Maharashtra, l'armée de la reconstruction du Maharashtra, le MNS, a déclaré qu'il empêcherait la sortie du film à cause de l'acteur pakistanais et en signe de solidarité avec l'armée indienne suite à l'attentat du 18 septembre. Donc ils avaient déclaré tout de suite que les membres saccageraient tous les cinémas qui diffuseraient le film. Ça s'est déjà fait par le passé, donc la menace était sérieuse. Il y a donc eu des négociations entre les producteurs de cinéma, ce parti nationaliste xénophobe et le chef du gouvernement régional qui est venu mettre son nez dans tout ça et le parti a exigé que finalement ce film pouvait sortir mais qu'avant le film il devait y avoir un message de soutien à l'armée et aux victimes de l'attaque du 18 septembre et que le producteur du film devait verser 50 millions de roupies. Ça fait entre 680 et 690 000 euros au fonds d'aide aux blessés de guerre. Alors autant dire que chez les vétérans, c'est une idée qui n'a pas du tout plu. Ça a été pris comme une extorsion, c'est ça l'idée, là on est quand même dans du chantage. Toujours est-il que ce producteur a accepté et que du coup, ça a bloqué tout le reste. Et que là, on n'est pas prêt de revoir un acteur ou un musicien pakistanais dans un film à Bollywood. Maintenant, il y a même des trucs complètement délirants. Du côté de la police indienne, on a pété un câble, moi je vous le dis, puisque j'ai appris que la police indienne avait décidé de choper, d'arrêter, d'emprisonner les pigeons. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de pigeons qui ont été arrêtés, deux précisément, dont un avait un message adressé au chef indien, Monsieur Modi, qui disait « Monsieur Modi, nous ne sommes plus les mêmes qu'en 1971 », une référence historique. « Maintenant, chaque enfant est prêt à combattre l'Inde ». Donc du coup, côté indien, on s'est dit « ça se trouve, c'est de l'espionnage, ça peut être très dangereux ». Donc ils se sont mis à choper tous les pigeons. Alors je dis pas « ça rigole hein ». sur les réseaux sociaux en Inde, parce qu'on se demande bien là où est-ce qu'on va quand même, si cette guerre a amené à arrêter des pigeons, parce qu'en fait tout ça a été filmé en plus par les médias. Donc sur les chaînes de télévision, vous aviez un pauvre pigeon dans une cage avec des policiers en train de le surveiller, un truc de fou quand même, hein. Il y a un autre oiseau qui a été arrêté, il a été passé au rayon X, il a été inspecté pour s'assurer qu'il n'y avait pas de soucis. Donc c'est une espèce de grand n'importe quoi qui est en train de se passer, du côté indien comme du côté pakistanais. Alors en Inde, il faut dire qu'aussi actuellement il y a une grosse actualité, vous l'avez peut-être entendu parler, il y a une démonétisation. C'est pas un mot qu'on emploie tous les jours pour dire, mais elle est très soudaine, cette démonétisation. Elle concerne 24 milliards de billets en circulation en Inde, et c'est monsieur Modi, le premier ministre, qui a annoncé que les billets de 500 et 1000 roupies allaient être retirés de la circulation. Il a annoncé ça mardi à la télévision, et c'était une application pour le mardi minuit, hein, donc c'était tout de suite. De nouveaux billets devaient apparaître aujourd'hui, ce qui fait que les banques ont fermé hier, les distributeurs étaient hors service, mais entre-temps de son annonce et la mise hors service, il y a des tas de gens qui sont allés retirer des sous en disant il faut absolument quand même qu'on ait des sous, les gens n'avaient pas tout à fait compris le message, et donc il y a tout un tas de gens qui se sont retrouvés avec de la monnaie qui n'était plus valable mercredi, un truc de dingue. Même le tourisme est touché, puisque personne n'avait été prévenu, les bureaux de change ont fermé. Alors il y a une utilisation de la carte bleue en Inde, elle s'est beaucoup développée, cette utilisation, cette dernière décennie, mais l'argent liquide représente 90% des transactions dans le pays, donc vous imaginez bien que ces coupures manquantes ont provoqué une petite réaction quand même. Alors c'est pas la première fois, en 1978 les billets de 1000, 5000 et 10 000 roupies avaient été retirés, mais à l'époque ai-je appris, parce que je ne savais pas, peu de gens avaient l'occasion d'avoir ces billets entre les mains. Alors tout ça c'est fait pour lutter contre l'évasion fiscale, contre la corruption. Il paraît que ça va marcher, mais c'est quand même une annonce particulièrement bizarre, il faut le dire, qui est extrêmement soudaine. Monsieur Modi, je vous rappelle, est un nationaliste. La démocratie en a pris un petit coup en Inde, hein, depuis qu'il est là, depuis 2014. Tout ne va pas très bien non plus en Inde, donc il essaye au moins d'agir sur l'économie, puisqu'au niveau quand même de la liberté d'expression, c'est pas tout à fait ça. Côté Pakistan, vous avez peut-être entendu parler de cet Afghan aux yeux verts. L'Afghan aux yeux verts, c'est une photo dont tu te souviens peut-être, Laurent, une photo de Steve McCurry.
Qui avait fait la une de pas mal de journaux.
Alors, 1985, National Geographic. Steve McCurry avait beaucoup travaillé avec ce magazine. Sherbat Goula, il connaissait pas du tout son nom, il savait pas d'où il était. Il a mis du temps à la retrouver. Mais une fois qu'il l'a eu retrouvé, bah, il l'a suivi. Et Sherbat Goula, cet Afghan qui avait été prise en photo dans un camp de réfugiés au Pakistan, elle s'est fait arrêter avec des faux papiers. Elle a été jugée par un tribunal. Elle a plaidé coupable le 4 novembre dernier. Elle a été condamnée à 15 jours de prison, 110 000 roupies, ça fait à peu près 950 euros d'amende. Et la suite, c'était son expulsion qui a eu lieu le 7 novembre. Elle a été expulsée vers l'Afghanistan. Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, le Pakistan a accueilli sur son sol beaucoup de réfugiés. Hein. C'est d'ailleurs un des pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Mais ces derniers temps, le Pakistan a décidé de mener une campagne de vérification d'identité pour pister les détenteurs de faux papiers. Et donc renvoie les gens en Afghanistan d'une manière assez massive ces derniers temps. Donc c'est un changement un petit peu de la manière de faire, ça inquiète un peu tout le monde parce que c'est des milliers d'Afghans et d'Afghanes qui se retrouvent dans des camps tout pourris au Pakistan. Il y a une crise en Afghanistan, excusez-moi, ça risque de créer une crise humanitaire majeure, hein, déjà que c'est le cas quand même. Voilà en tout cas pour le Pakistan et pour l'Inde de ce que j'avais envie de vous en raconter ce soir.
Eh ben, on va parler d'un sujet sur lequel on parle pas beaucoup, c'est de la Moldavie. Donc, petit pays qui se situe juste à côté de la Roumanie, et à côté de l'Ukraine, et pas loin de la Russie, forcément. C'est le pays le plus oriental, hein, je crois, d'Europe. C'est le premier pays, on va dire, entre qui fait la jonction à ce niveau-là, entre l'Europe et l'Orient, puis donc la Russie. Donc, la Moldavie, il faut se rappeler, alors, historiquement, hein, c'était un pays qui s'appelait la Bessarabie, dans lequel il y avait la Roumanie et la Moldavie. socialiste, bon, avant que les deux prennent ce nom-là, sous j'allais dire l'Empire soviétique, pas l'Empire, sous les soviétiques, c'était presque un empire.
C'est un lapsus compréhensible. Ouais.
Sous les communistes, Staline avait fait des déplacements de population, il avait rajouté un petit bout de territoire composé essentiellement de Russes qu'il avait intégré à ce qu'allait devenir la Moldavie, donc à cette entité qui était plus la Roumanie. Il avait rajouté ce territoire en ayant comme idée qu'un jour, s'ils ont envie de devenir indépendants, mais le fait qu'il y ait un bout de territoire où il n'y a que des Russes, ça limiterait l'indépendance. Et puis en 91, quand le mur de Berlin tombe, enfin le mur de Berlin est tombé en 89, la Moldavie a mis du temps à se sortir du truc. En 91, il y a eu la guerre tout de suite et ce bout de territoire là qui avait été artificiellement rajouté par Staline est devenu autonome et s'appelle la Transnistrie, hein, qui est reconnu
indépendant.
Par... Un bout de territoire soi-disant indépendant mais reconnu par aucun pays du monde mais qui vit sous perfusion russe et qui est nostalgique de des communistes, hein, puisqu'il y a des statues de Lénine qui réapparaissent, voilà, il y a le marteau, la fossile à tous les coins de rue, enfin bon, c'est un pays un peu bizarre. Il y avait une élection en Moldavie dimanche dernier, la première élection du président au suffrage universel. Alors, c'est un pays démocratique, hein, la Moldavie. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Corrompu, un petit peu au niveau de ses élites.
Voilà,
quand même.
Mais très corrompu, mais on va démocratie. En parler. Mais c'est une démocratie qui fonctionne quand même avec de l'alternance, etc. Mais jusqu'à maintenant, le président n'était pas élu au suffrage universel. Donc là, il y a eu un gros changement et c'est le premier président qui était élu au suffrage universel. Alors, qui a gagné à l'élection de dimanche? C'est Igor Dodon. Donc, Donc Igor Dodon, candidat pro-russe, parce que comme dans tous ces pays, ce qui fait la différence entre les candidats, c'est malheureusement pas les idées politiques. Hein, moi, je suis de droite, je suis de gauche, je suis facho, je suis d'extrême gauche, etc. Non, c'est en partie, en tout cas, voire en très grosse partie, je suis pro-russe ou anti ou pro-européen. En gros, ça joue comme ça, un peu comme en Ukraine, comme dans les pays baltes, etc. Donc, ce candidat pro-russe a accueilli 48% des suffrages. Donc il n'est pas élu. Il y aura un deuxième tour. Mais il n'est quand même pas passé loin de la victoire au premier tour, hein, quand même. Donc il était opposé à la candidate pro-européenne Maia Sandu. Et à d'autres petits candidats. Donc elle est qualifiée aussi pour le second tour. Elle est arrivée avec à faire 37,9% des sondages. Alors Igor Dodon, il profite de la faillite des partis pro-européens qui étaient au pouvoir depuis 2009 et qui ont fait un peu n'importe quoi. On en reviendra. Alors le deuxième tour aura lieu le 13 novembre, donc le week-end prochain, dimanche prochain. Il y a toutes les chances quand même qu'il gagne, ce monsieur Dodon, parce qu'il a 48% déjà quasiment assuré qui avait voté pour lui au premier tour, 48,7 très exactement, et il y a un autre parti pro-russe qui a eu 6% d'électeurs. Donc il y a des chances que le report se fasse tout naturellement et qu'il arrive en tête. Donc il risque de gagner. Alors, qui c'est ce Dodon? J'arriverai pas avec son nom, Igor Dodon. Donc, c'est un ancien ministre de l'économie et du commerce, qui soutenait le rapprochement avec l'Union européenne. Ah oui, il a tourné sa veste, changé sa veste. Enfin bon, voilà, une girouette un peu politique. Il va là où le vent souffle et là où il a une chance de gagner, le monsieur. Donc, aujourd'hui, il voue un énorme culte, c'est de ça dont il est question, à son idole absolue qui est Vladimir Poutine, qui est son modèle. Et il, comme il le dit lui-même, il veut ramener l'ordre en Moldavie et y défendre les valeurs traditionnelles. C'est un peu l'équivalent de Trump en Moldavie. Hein. Donc voilà. Il veut donc remettre en cause l'accord d'association. Vous savez, c'est l'étape intermédiaire avant l'intégration à l'Union européenne. L'accord d'association signé entre la Moldavie et l'Union européenne, qui date de fin 2013. Donc voilà, sa politique, c'est ça. Son idée, c'est de se rapprocher plutôt de la Russie, puisqu'il est pro-russe, surtout du marché russe, en ayant espoir revendre plein de produits, parce que la Moldavie produit pas mal d'agriculture, hein, c'est un énorme pays agricole, comme l'était l'Ukraine d'ailleurs, de revendre beaucoup de choses aux Russes. Alors en face, il y avait plein de petits partis. Alors, pour montrer que c'est compliqué, il y a eu pas mal de désistements en dernier moment de petits candidats pro-européens qui se sont dit, ça vaut pas le coup qu'on y aille. Et c'est quelques jours, hein, avant le scrutin de dimanche dernier, parce qu'on va enlever des voix à celle qui a des chances de s'en sortir. Donc du coup, il y a eu pas mal de retraits. et ce qui a permis donc à cette candidate Maya Sandu d'obtenir 37,9%. Alors même si elle est issue un peu du sérail, elle est formée à Harvard, elle avait passé par la Banque mondiale, donc c'est une libérale, etc. Elle a combattu la corruption dans les grosses affaires de corruption. Donc, pour revenir dans les grosses affaires de corruption, c'est le dernier gouvernement, donc ce gouvernement pro-européen, qui a fait un truc énorme, corruption, 1 milliard d'euros vont disparaître des 3 principales banques du pays. Alors 1 milliard d'euros, pour un pays comme la France, ça représente pas grand-chose. Pour la Moldavie, c'est 15% du PIB qui ont disparu. Donc il y a des mecs qui ont volé ou qui ont laissé voler 15% du PIB, de l'argent de la Moldavie. Du coup, suite à ce scandale, elle sait, même si elle était pro-européenne, elle fait partie des candidats qui n'ont pas été impliqués et qui tout de suite ont appelé à du changement, qu'il fallait lutter contre la corruption. D'ailleurs, son programme, il est essentiellement basé sur la lutte anticorruption. Elle ne replace pas son programme dans le cadre des luttes russes, russo-européennes, on va dire. Elle dit non, d'abord, il faut qu'on dirige le pays correctement, il faut lutter contre la corruption. Alors, faut savoir qu'elle a financé sa campagne avec 20 000 dollars. C'est quand même pas beaucoup. Hein. En France, c'est des millions de dollars juste pour la primaire de la droite, pour resituer. Bon, c'est un pays plutôt pauvre, hein, la Moldavie. Elle a eu très peu accès aux chaînes de télévision qui sont contrôlées par des oligarques, hein, qui sont plutôt du côté de Dodon. Du coup, elle a quand même pas mal galéré. Et il s'est passé un truc, c'est que la Russie est quand même intervenue, forcément, dans ces élections, avec ses gros sabots, et elle est intervenue de manière directe, en insistant auprès de ses médias et des oligarques pro-russes, pour empêcher la candidate de parler, et surtout, elle est allée voir les religieux, hein, ce sont des orthodoxes, en disant aux religieux, il faut que vous donniez votre avis et vous souteniez Dodon. Effectivement, les religieux se sont opposés. Vous allez voir que les raisons sont pas mal dans le style « je suis homophobe », bon, on sait que Poutine c'est ça, et ben l'église orthodoxe moldave c'est pareil. On a par exemple, lors de la conférence de presse du 4 novembre, l'évêque de Baltie-Tfalesti, qui s'appelle Marshall, entouré de plusieurs prêtres, il s'en est pris donc à cette Maya Sandu, et il a dit, je cite, « ceux qui voteront Maya Sandu seront non seulement complices des décisions illégales de celle-ci, mais se rendront également coupables devant Dieu. Nous n'avons pas le droit moral et ce n'est pas chrétien de voter pour elle. » C'est quand même pas mal. Et ensuite, ils expliquent pourquoi. Ils l'insultent comme ça, ils disent que c'est pas chrétien de voter pour elle. Parce que, d'après eux, elle serait pas chrétienne. Et surtout, elle soutient les revendications des LGBT, des gays et des lesbiens, des transgenres moldaves, qui s'expriment très peu parce qu'ils en prennent plein la gueule quand même. Elle les soutient. Donc cet évêque se fait l'écho un peu de ce qu'a dit le candidat Igor Dodon, qui avait, lors d'un débat télévisé, attaqué Maya Sandu en disant qu'elle appartenait à une minorité sexuelle, puisqu'elle serait homosexuelle, et qu'en plus elle était soutenue par les homosexuels, donc c'était mal, et qu'en plus elle aurait fait rentrer des réfugiés syriens illégalement en Moldavie. Hein, quitte à faire des accusations comme ça, autant être dans l'outrance. Donc voilà, et du coup, l'église moldave, aidée soutenue par la Russie, accuse cette femme de tous les maux et soutient Igor Dodon en disant c'est un patriote et un ami de l'église. Alors deuxième cas, hein, l'autre exemple, le métropolite, c'est un évêque, hein, le métropolite de Chisinau, la capitale de la Moldavie, Vladimir, il a pris position lui aussi en soutenant Igor Dodon et en disant, je cite, le prochain président doit être marié. Or, cette dame, elle n'est pas mariée. Donc là, c'est mal de pas être marié. Bon, il a rappelé que eux, ils étaient contre le droit donné aux minorités sexuelles. Voilà. Alors, finalement, tout va se jouer dimanche prochain. Ça semble mal parti pour Maya Sandu. Mais bon, faut savoir qu'il y a eu plus de 50% d'abstention. Donc, ils ont des chances qu'il y ait une mobilisation, notamment des jeunes qui ne se sont pas exprimés, qui sont plutôt pro-européens et qui ont été pas mal dégoûtés de la politique avec les scandales qui se sont passés depuis 2009 et qui, là, pourraient réagir. Alors, il y a un espoir qui est certes très faible, mais voilà. En tout cas, elle a fait un score qui n'est pas ridicule du tout, hein, 37,9%, alors qu'elle avait tout le monde contre elle, hein, les églises, le candidat, les médias, pas d'argent. elle s'en est plutôt pas mal sortie, la petite dame. Et ben bravo, on lui souhaite bien du courage face à tous ces racistes, ces fachos, ces homophobes, qui sont très présents hein, dans, bah, dans toute l'influence russe, hein, de toute façon, et notamment ce qui est sous influence de l'Église orthodoxe, qu'elle soit russe, moldave, ukrainienne ou je ne sais quoi. Voilà, dans les pays baltes, c'est un peu la même chose. Voilà, je voulais faire un petit point sur la Moldavie. On n'en parle pas souvent de ce petit pays.
On va parler un petit peu de Bolloré. Oui, tout de suite, hein, ça te fait des cris de joie. Donc à ITL, les grévistes sont toujours en colère. Bon, il paraît qu'ils commencent à être un peu épuisés. C'est normal parce que ça dure. C'est dur hein, face à Bolloré. Mais je voudrais vous emmener d'abord au Cameroun. Vous le savez peut-être, mais le 21 octobre dernier, il y a eu une catastrophe ferroviaire. 79 morts, près de 600 blessés. Eh ben, nous avons appris que les proches des victimes de cette catastrophe ferroviaire ont décidé vendredi dernier de porter plainte contre les dirigeants de la compagnie Camrail. Et pourquoi je vous en parle et quel est le lien avec Bolloré? C'est parce que c'est une filiale de Bolloré. Et donc, ces 28 personnes attaquent Camrail pour défaillance et négligence. D'après ce que j'ai pu un peu en lire, a priori, il y a eu un problème de freinage. Sauf que Camrail a l'air de dire que c'est pas le cas.
On notera quand même que les médias Bolloré ont refusé de diffuser l'information sur l'accident de train.
Ah bon?
Oui.
Ah bon? Tu me surprends là.
Voilà, ils n'allaient pas parler d'un accident dont leur patron est le patron de la compagnie qui a créé l'accident, quoi.
Alors précisément, la Camrail, c'est plus de 79% à SCCF, c'est-à-dire le groupe Bolloré, 13,5% à l'État camerounais, 5,3% à Total Cameroun, et puis le groupe Tannerie pour terminer ce beau mélange de belles sociétés et d'amis. Donc il devrait y avoir une information judiciaire qui devrait être ouverte à la suite de l'enquête. C'est à partir de là qu'on saura si ces procédures engagées amèneront à un procès ou pas. Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Camrail a annoncé une première enveloppe qui correspond à 2 287 € pour indemniser les victimes de l'accident. Et on a pu apprendre dans un communiqué que les procédures d'indemnisation pouvant être longues et complexes dans ce type d'accident, Camrail a souhaité faciliter les procédures et débloquer dans l'urgence une première enveloppe budgétaire destinée à la prise en charge des frais funéraires. Et tout ça, c'est la main sur le cœur et la larme à l'œil. Oui, parce que côté Bolloré, on a la main sur le cœur et la larme à l'œil. Si vous avez lu Le Canard Enchaîné, vous savez que du côté Bolloré, on n'aime toujours pas France Télé, France Télévision. Alors, souvenez-vous, le 7 avril 2016 dernier, France 2 diffuse Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, avec un point d'interrogation, et ça ne plaît pas à Monsieur Bolloré. Mais alors, pas du tout. Il y a une petite rediffusion le 21 juillet 2016, et là, le groupe Bolloré décide de porter plainte contre France 2 pour diffamation et réclamer 50 millions d'euros hein, quand même à la chaîne. Tout ça, c'était devant le tribunal de commerce de Paris. Mais on a appris que c'était pas fini pour France 2, pour France Télévisions, puisque la société camerounaise Socapalm, dont le groupe Bolloré détient certes une participation minoritaire, 20% de, hein, quand même, tout de même, vient de déposer une nouvelle plainte en diffamation contre cette émission. C'est vraiment beaucoup d'ennuis pour France 2, hein, qui avait mis les deux pieds dedans en nous racontant ce qui se passait hein, dans cette production de Palme. On y voyait d'ailleurs des jeunes gens nous expliquer qu'en fait ils étaient mineurs hein, et qu'un certain nombre de droits du travail n'étaient pas respectés. Alors il paraît que tout ça c'est pas vrai, que France 2 c'est des sales menteurs, que c'est des journalistes qui de toute façon n'ont pas fait un travail d'engagement mais un travail de menteur. Ils étaient partisans et ils auraient même fait jouer les jeunes gens devant la caméra, c'est ce que expliquait un certain nombre de gens pour soutenir Bolloré. Donc là, c'est la présidente de France Télévisions, Madame Ernotte, le journaliste présentateur de complément d'enquête, excusez-moi, Nicolas Poincaré et Tristan Valec, l'auteur du reportage, qui sont assignés devant le tribunal correctionnel de Douala. Que vous dire d'autre? Ah si, ça c'est le plus important quand même. D'après le porte-parole du groupe Bolloré, Monsieur Bolloré n'y est absolument pour rien si jamais la Socapalm a déposé une plainte. juré et promis, c'est pas lui qui les a incités à déposer la plainte. Ils l'ont fait tout seul, tout seul. Il faut savoir que la Socapalme a quelques opposants au Cameroun, en particulier au niveau des paysans. Il y a des manifestations qui ont eu lieu. Il y en a une prochaine le 14 novembre prochain. Il y a des problèmes de pollution, des problèmes de position, de monopole, et tous ces gens s'attaquent à la Socapalme et donc quelque part aussi à Monsieur Bolloré, bien évidemment. Je voudrais que tu nous parles un peu de BD là tout de suite.
Ah, tu t'as sauté un truc là.
Ouais.
Non, ça va être pas très très long. Je vais vous parler de trois BD. Le troisième tome est sorti la semaine dernière. La BD s'appelle Mes meilleurs ennemis. Alors vous allez comprendre de quoi ça parle quand je vais vous lire le sous-titre. Une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Alors, c'est Jean-Pierre Filiu, qui est un spécialiste de la question au niveau historique, qui est un historien, et David B., immense dessinateur de BD. Donc, il y a trois tomes. Le premier, c'est sur la période 1783-1953. La deuxième, 1953-1984. Et la troisième, donc, qui est sortie la semaine dernière, 1984-2013. Donc, ils refont un historique des relations américano-moyenne-orientales, on va dire. Et c'est énorme. Alors, faut savoir que David B. est un immense dessinateur. Et chaque dessin est une icône, ça pourrait devenir un poster. Il met en image le texte à côté qui explique les différentes étapes. Et c'est vraiment incroyable du dessin. Alors, le dessin, c'est vraiment le truc en plus. Le premier intérêt, c'est que c'est un condensé de l'histoire. Alors, bien évidemment, le dernier tome, c'est le moins intéressant du point de vue de l'histoire, puisque ce qui s'est passé entre 84 et 2013, on connaît. Je veux dire, on se rappelle de la première guerre du Golfe, hein, vous savez, je sais pas, si vous êtes trop jeune, vous avez pas connu, les autres, vous avez connu les images vertes, là. On avait les bombardements, on voyait des traits verts, les gens regardaient des traits verts qui passaient dans le ciel, et c'était la guerre du Golfe. Alors qu'en face, il y avait des gens qui prenaient des bombes, et d'autres gens qui les lançaient de l'autre côté. Donc ça reparle de tout ça, la première guerre du Golfe, la deuxième, le 11 septembre, tout ce qui s'est passé, toutes les magouilles. Mais celle-là, on les connaît un petit peu, donc, c'est le moins intéressant. Mais, à chaque commentaire qu'on connaît sur Abu Ghraib, tout ça, il y a une image à tomber par terre, un dessin. C'est graphiquement, c'est hyper créatif. Hein, David B., c'est vraiment un tueur. Et par contre, les deux autres tomes sont historiquement beaucoup plus intéressants. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, ce qui était mon cas, j'ai pas connu les autres périodes. En tant que je m'intéressais pas à ces époques-là, à l'histoire. Et notamment le premier tome est très surprenant puisque on découvre que dès 1783, alors en fait même ça me remonte avant, les États-Unis sont intervenus au Moyen-Orient. Et alors quasiment au moment où les États-Unis sont créés, donc au 18e, et ben déjà c'est bon, tout de suite ils interviennent. Tout de suite. C'est eux qui vont installer la famille Saoud. Donc ça, c'est dans le premier tome. Hein. Saoud en Arabie Saoudite. Le pays n'existe pas encore, bien évidemment, puisque sinon, tant qu'il n'y a pas la famille Saoud, ça ne s'appelle pas l'Arabie Saoudite. C'est le seul pays qui porte le nom de son souverain, d'ailleurs, dans le monde. Donc voilà, il y a tout ce qui s'est passé autour des coups d'État en Iran, le soutien au Shah d'Iran, les manipulations qu'ont fait les États-Unis d'Amérique là-bas, le retour de Khomeini, de la révolution rétrograde islamiste en Iran, et de toute l'instrumentalisation comme ça des Américains. Le deuxième tome, c'est plus autour, c'est entre 53 et 84. Donc là, c'est l'époque du panarabisme, hein, de Nasser, des gens qui avaient une vision de gauche, quelque part, hein, quand même, par rapport à celle de maintenant qui est de l'extrême droite, hein, pour tous ces pays-là, de gauche de la politique, et malgré un certain nationalisme, hein, il faut pas l'oublier non plus. Et puis c'est les guerres, le soutien aux Israéliens, la guerre des six jours, Kippour, etc., la révolution donc iranienne qui arrive dans le deuxième tome. Voilà, c'est des BD, c'est l'occasion, elles sont très belles, ça coûte relativement cher, moi je trouve, parce que c'est à peu près 18 euros chaque tome. Donc ça, si on achète les trois, ça fait cher, mais c'est l'occasion de vous les faire offrir à Noël, parce que, alors bon, je redis, graphiquement c'est à tomber par terre, regardez les pochettes, vous allez comprendre ce que c'est que voilà, vous avez une phrase qui, enfin une phrase, une dizaine de phrases qui résument un fait politique, et vous avez en une seule image finalement, on résume cette phrase-là, et c'est plus percutant que la phrase elle-même. C'est un truc incroyable, le dessin de David B. Donc voilà, c'est un bon moyen de réviser son histoire du Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient, sans l'intervention américaine, bah, ça ressemblerait pas à ce qu'on a nous. Bon, ils en profitent pour parler aussi de ce qui se passe, parce qu'on rappelle, il y a la colonisation française, enfin le mandat français au Liban, en Syrie, tout ça qui est évoqué, puisque forcément il y a des interrelations, mais voilà, c'est trois belles BD, donc je répète, ça s'appelle Les meilleurs ennemis, une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient, par Monsieur Filieu et Monsieur David B.
Très rapidement, je vais essayer de tout placer. Je voudrais vous parler de La Brique, hein, ce journal de Lille. Je vous rappelle les faits, si vous l'aviez peut-être suivi un petit peu. Le 22 février 2015, l'équipe de La Brique vend son journal, comme d'habitude, à l'extérieur, sur un marché. Et l'équipe est verbalisée par la police municipale. Tout ça basé sur un arrêté pris par Madame Martine Aubry en 2004, qui prévoit l'accès au marché est interdit aux véhicules publicitaires, cortèges, vendeurs et distributeurs de journaux, tracts de toute nature et prospectus à caractère publicitaire. Sauf que, dans la règle, un journal a le droit de trouver les moyens de sa diffusion et donc d'aller dans la rue vendre son canard. Je vous rassure tout de suite, il y avait un procès qui était le 4 octobre dernier. La Brique a été relaxée, tout va bien. Mais c'est le principe même qui était important pour l'équipe de La Brique. Hein, c'était pas pour les 38 euros d'amende qu'ils ont refusé de payer ce PV. C'était qu'ils estimaient qu'ils avaient le droit de vendre leur journal d'information dans la rue, que c'est la liberté de la presse et de l'expression. Sauf qu'a priori, la police municipale n'était pas d'accord. Et puis c'était un bon moyen de les virer aussi de la rue. Les gens importants et utiles, finalement, on essaye toujours de s'en débarrasser. Alors, ils se sont retrouvés avec un juge de proximité qui n'est pas un juge professionnel, et La Brique le fait remarquer, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dû se retrouver dans cette position. Il n'avait pas l'air de connaître grand-chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le juge a remis en question la qualité de journal à La Brique, c'est-à-dire qu'il n'a pas cessé de comparer ça à une distribution de tracts et non pas à une vente d'un journal d'information. Donc, il a cherché à les rabaisser.
Et d'ailleurs, l'idée d'interdire même la distribution de tracts, c'est quand même inadmissible.
Oui, enfin, voilà. Bon, mais là, on a peu de temps, c'est pas le sujet, mais je suis d'accord avec toi. Le juge a même compris à un moment que c'était pas l'amende qui les intéressait, mais le fond, le principe. Un éclair de lucidité, comme l'écrit La Brique dans son papier. Eux, ils en reviennent pas dans cette équipe de ce qui s'est passé, de la bêtise et de l'ignorance de cet homme, qui, ces juges, leur a demandé « Mais votre journal est-il militant ?» Et on leur a répondu à la barre « Pas plus militant que La Voix du Nord
!» Ouais, c'est ça. Hein.
Voilà, il faut arrêter.
Ils auraient pu citer Le Figaro, ils auraient pu citer les autres.
Hein. Donc c'est un procès de principe. Moi, je suis épatée qu'il y ait encore des gens qui se battent et qui, bah, même pour 38 euros, décident de faire front, parce que c'est vachement important. C'est le droit à la liberté de la presse, c'est le droit à l'expression. Et aujourd'hui, La Brique était tombée là-dessus, bah, c'était un petit peu tout le monde qui en prenait plein la tronche. Et puis, d'une manière plus anecdotique, mais juste parce que je trouve ça quand même assez rigolo et c'est symptomatique de ce qui se passe dans la presse, d'ailleurs tu faisais référence à ça tout à l'heure, c'est Merci Patron qui, hein, l'équipe de Merci Patron, oui, de Fakir, qui a tenté d'acheter une pub dans Le Parisien. Alors évidemment, hein, c'est un peu de la provoque. Hein.
Oui, ça appartient à qui, Le Parisien?
À Bernard Arnault.
Donc celui qui est visé dans le film Merci,
voilà,
Patron. Ils avaient l'argent et ils allaient payer.
Ah, ils ont même fait le premier compte, hein, je crois, ouais, qu'ils avaient déjà versé, envoyé un petit chèque. Tout était bon et puis patatras, bah, ça a plus marché, on leur a dit qu'on voulait plus de la pub. Je vous laisse aller lire sur le site de Fakir en direct leur petit explicatif qui, comme toujours avec Fakir, est plutôt sur le ton de l'humour, voire de la déconnade, hein, presque. En tout cas, ils n'ont pas eu la pub pour leur DVD, hein, puisque c'était bien pour vendre Merci Patron. Voilà. Ça n'a pas marché, on leur a fait une... S'il y a de l'autocensure, hein, au sein du Parisien, c'est aussi ça que Fakir met en avant.
Voilà. On se rappelle de la décroissance qui avait essayé de faire une pub, qui avait fait une pub et France Télévisions avait refusé de l'acheter parce que ça incitait à non consommer. Enfin voilà, la censure au niveau publicitaire, elle est importante, hein, quand on n'est pas dans les créneaux prévus par le libéralisme.
Oui, mais il paraît que la pub, là, c'était parlait du militantisme et que ça allait pas avec périodes électorales. C'est bizarre. Ouais.
Alors, un petit agenda très rapide, puisqu'il nous reste une minute. Demain, c'est le 11 novembre, et comme on dit toujours, ceux qui commémorent les guerres préparent les anciennes guerres préparent la suivante. Du coup, faut pas commémorer le 11 novembre, mais c'est l'occasion de se rappeler qu'il faut continuer la lutte antimilitariste. La Plume Noire, organisée par la coordination, la Plume Noire, c'est la librairie, c'est organisé par la coordination des groupes anarchistes. Ils font une soirée à partir de 20h demain, ouverture de la librairie à 19h30, autour de l'antimilitarisme, et il y aura la projection d'un film. Et puis, samedi, un gros truc, ça commence à la salle des Ovalistes, 6 impasse Flessel, donc sur les pentes de la Croix-Rousse. Commémoration de la résistance au franquisme, c'est l'anniversaire, les 80 ans de la mort de Durruti, Buenaventura Durruti, célèbre résistant anarchiste espagnol. Donc il y a plein de choses, donc ça commence à 10h avec l'ouverture de l'exposition d'affiches, des affiches de la CNT et de la FAI, qui datent de 1936, qui viennent de Barcelone. À 15h, débat autour du film qui s'appelle Otis, un général sans dieu, sans maître, c'est organisé par la librairie Les Chats Noirs de Cuiserie. À partir de 16h, un atelier de sérigraphie. 18h, une représentation de la compagnie Camina, toujours autour de ce thème-là. 19h, un buffet après libre par la coopérative locale, comme il a mis tiens-moi la pente. Après, une chorale.
Ça va leur faire plaisir de savoir qu'ils sont une coopérative locale.
La chorale, des militants qui font de la bouffe. La chorale des mauvaises pentes. Le DJ Milouz que l'on embrasse. Ça va être une super journée et une super soirée. La participation aux frais, c'est 1,80 pour entrer, et si on veut rester le soir et manger, il faut réserver et envoyer un mail à Papy Art. Je vous laisse chercher toutes les infos sur rebellion.info. Voilà, c'est une belle journée, un beau truc qui est organisé, et c'est très très bien de se rappeler ce qui s'est passé en Espagne, la Révolution espagnole ou la Résistance espagnole ou la Guerre d'Espagne. Il y a plusieurs noms. Le mieux, c'est la Révolution espagnole quand même. Donc voilà, c'est samedi prochain. On va se quitter. Je voulais juste terminer avec la phrase de Manuel Valls sur l'élection de Trump. Il a dit « L'élection de Trump nous rappelle le besoin de frontières et de réguler l'immigration. » Voilà, face au discours xénophobe, raciste, en face, Valls, soi-disant homme de gauche, il propose non pas de lutter contre ses idées, mais de reprendre les idées des fachos, des racistes. Voilà, donc Valls, finalement, est d'extrême droite.
Écoute, un agresseur à la Maison Blanche, d'agresseur sexuel à la Maison Blanche. Ouais. Moi, je trouve ça hyper classe.
Ouais, et je sais plus combien, 43% des femmes ont voté pour lui. Et, c'est pas gagné.
Non. Eh bien, sur ce, on va vous laisser faire ce que vous faites. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite malgré tout un bon week-end. On espère que vous ne travaillez pas. Voilà. Ouais.
D'ici quelques secondes, l'émission La Petite Cuillère arrive.
Ciao.